Le journal, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. En réunissant ce matin le premier conseil des ministres de la nouvelle année, Emmanuel Macron a ouvert une semaine clé ponctuée non seulement par la reprise demain de discussions difficiles avec les syndicats en colère, mais aussi par deux nouvelles journées de manifestation jeudi et samedi prochain.
Le procès de 24 djihadistes présumés dont la plupart sont en fuite en Syrie ou donnés pour morts doit s'ouvrir aujourd'hui aux assises spéciales de Paris.
Et parmi les accusés figurent notamment les frères Belloucine dont l'aîné est considéré comme le mentor du tueur de l'hypercacher Mehdi Koulibaly dont l'attentat il y a presque 5 ans jour pour jour avait fait 4 morts.
Ce sera sans conteste un rendez-vous crucial pour le mouvement MeToo.
Oui, le procès du producteur de cinéma Harvey Weinstein accusé de multiples agressions sexuelles doit s'ouvrir aujourd'hui à Manhattan. Enfin, depuis la mort dans un raid américain du puissant général iranien Qassem Soleimani, le monde entier continue plus que jamais de redouter une escalade voire une véritable déflagration. Ce matin, les appels à la vengeance, à une riposte dévastatrice contre les États-Unis ont fusé parmi la foule compacte amassée à Téhéran pour rendre un dernier hommage à son héros. Invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranéennes, Moyen-Orient. Enfin, à 12h55, Olivia, si vous avez retrouvé la voix, ce sera la grande table des idées.
Sûrement ou probablement pas, mais il y aura quand même une grande table des idées avec ou sans voix. Et notre invité, surtout la philosophe belge Isabelle Stengers, pour réactiver le sens commun. C'est une réflexion qu'elle ouvre aujourd'hui sur ce qui sépare le grand public des sachants et sur l'importance de se réapproprier ensemble le sens. Elle est écoféministe, elle est philosophe et engagée. Elle nous rejoindra dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. Pour son premier conseil des ministres de l'année, et alors que le mouvement contre la réforme des retraites est désormais entré dans son deuxième mois, mais aussi à l'heure où ses opposants misent sur un regain de mobilisation avec deux journées de manifestation prévues jeudi et samedi, la question en cette rentrée 2020 reste invariablement la même. Pour apaiser le conflit social en cours, le gouvernement consentira-t-il à glisser dans son cartable un manuel du compromis gagnant-gagnant? Seule certitude, demain, le Premier ministre Édouard Philippe ouvrira une séance de discussion au ministère du Travail, à laquelle seront conviés les partenaires sociaux pour parler pénibilité et emploi des seniors. Et puis, pas plus tard que ce matin, le ministre français de l'économie s'est lui déclaré favorable à ce que le gouvernement saisisse la main tendue par le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, lequel propose une conférence sur le financement du système de retraite. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
Alors, depuis quelques jours, c'est vrai, l'exécutif ne cesse de répéter à qui veut bien l'entendre qu'il est ouvert à la discussion. Pour autant, ce week-end encore, le nouveau monsieur retraite, Laurent Pietraszewski, a pris soin de rappeler combien, selon le gouvernement, l'âge d'équilibre était, je cite, un progrès social. Et ce matin, Bruno Le Maire n'a pas manqué non plus de souligner à son tour que l'âge pivot restait, selon lui, une bonne solution. Ce faisant, et au-delà, évidemment, des éléments de langage apaisant, on a tout de même du mal à percevoir, Pierre, quelles concessions le gouvernement serait prêt aujourd'hui à accorder pour débloquer la situation.
Il faut sortir de cette logique de conflit, c'est le mot d'ordre du moment dans la majorité. Et en cette semaine qui s'annonce déterminante, deux propositions sont mises sur la table et permettent d'entrevoir une sortie de crise par la négociation face à un bloc syndical dur, force ouvrière, CGT. Que dit Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, sur la question du financement de la retraite, cher au Premier ministre? Eh bien, il propose de convoquer une conférence de financement qui prenne le temps de faire des propositions sur l'équilibre du régime à moyen et long terme. Pourquoi pas, répond ce matin Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement. Chiche, dit sur France Inter Bruno Le Maire, le ministre d'Économie.
Laurent Berger propose qu'il y ait une conférence sur cette question du financement des retraites. Comment parvenir à l'équilibre financier? C'est une très bonne proposition. Je pense qu'il faut saisir la main qui a été tendue par le dirigeant de la CFDT, par Laurent Berger, et regarder avec lui. Il y a l'âge pivot. Pour moi, c'est une bonne solution. Est-ce qu'il y en a le meilleur? Est-ce qu'elle peut encore être améliorée? Vous voyez, le compromis, il est à portée de main.
Banco, dit Bruno Le Maire, mais à cette main tendue, il est une ligne rouge sur laquelle l'exécutif, comme Laurent Berger, demeure inflexible. C'est la question de l'âge pivot à 64 ans. Alors pourquoi pas trouver un compromis pour financer la réforme en instaurant une décote temporaire, comme sur le modèle de la caisse de retraite à Gircarco, mais en cas de départ à la retraite avant l'âge limite? C'est la proposition que fait Richard Ferrand, le président président de l'Assemblée nationale. C'est donc autour de ces thèmes, mais aussi de la pénibilité, de l'emploi des seniors, que le Premier ministre lancera demain matin sa nouvelle phase de négociation. Tout cela fait l'objet d'un cadrage ce matin, lors du premier Conseil des ministres de l'année. Malgré les blocages, malgré une opinion partagée des Français autour de cette réforme, le gouvernement avance. Il compte sur les parlementaires pour apporter des corrections au texte, comme le réclame par exemple la vingtaine de députés LREM qui demandaient entre Noël et Jour de l'An une modulation de l'âge d'équilibre selon la pénibilité.
Merci Pierre Neveu. Alors rappelons que, sans craindre la contradiction avec la volonté d'instaurer un régime universel, des concessions ont en réalité déjà été faites par l'exécutif, en particulier pour les danseurs de l'opéra, les marins, mais aussi les pilotes de ligne. De leur côté, les policiers réclament que la clause du grand-père dont vont bénéficier les militaires et les gendarmes leur soit appliquée. En revanche, rien de tel n'est pour leur envisager s'agissant des employés du transport public, de sorte que même si les taux de grévistes ont baissé, le trafic reste encore perturbé à la RATP, mais aussi à la SNCF, on compte aujourd'hui 8 TGV sur 10, 2 TER sur 3, 1 Intercité sur 3 et en Ile-de-France, un Transilien sur 2. De son côté, la CGT entend, elle, amplifier la mobilisation et promet notamment un durcissement des blocages demain dans les raffineries, les dépôts et les terminaux pétroliers. Et puis sur le front de la bataille de l'opinion, cette fois-ci, signalons que selon le dernier sondage IFOP, plus de la moitié des Français, 55% des personnes interrogées, souhaitent que le gouvernement n'aille pas au bout de la réforme en l'état ou quand le soutien à la mobilisation reste supérieur donc à l'hostilité. Enfin, il ne faudrait pas sous-estimer la capacité des opposants à la réforme des retraites à étendre la grogne à d'autres secteurs. Et c'est le cas en particulier des avocats, lesquels ont décidé de durcir leur grève à partir d'aujourd'hui. Il faut dire que les robes noires sont vent debout contre le projet de réforme qui pourrait se traduire à la fois par un doublement des cotisations, mais aussi une baisse de leur pension. D'où des actions de blocage prévues ce lundi dans les tribunaux. Au grand dam d'ailleurs, bien souvent des magistrats qui regrettent, Isabelle Souquet, de ne pouvoir exprimer leur colère autrement qu'aux dépens de leurs clients.
Pour les avocats et leurs instances, le constat est clair. Le gouvernement n'entend que les professions susceptibles de bloquer le pays. Ils ont donc décidé, à leur tour, d'appliquer la manière forte et ils se sentent soutenus par l'ensemble des professions de justice. Laurence Roch est l'ancienne présidente du syndicat des avocats de France.
Au-delà de la retraite, il y a quand même la réforme de la justice avec un abandon des services publics qui ne fonctionne aujourd'hui un peu comme les hospitaliers que sur les bonnes volontés des auxiliaires de justice que nous sommes, greffiers, magistrats, avocats. On devrait avoir une solidarité des magistrats et des greffiers qui savent que ce combat qu'on mène, c'est aussi un combat pour leur retraite, mais aussi pour un respect, tout simplement, des services publics qui sont quand même des services publics régaliens de l'État. La justice, c'est un corps fondamental dans une démocratie.
Pas de permanence pénale, des demandes de renvoi de toutes les audiences. Les avocats qui ont pris ces décisions de grève dure ne le font pas de gaieté de cœur. Xavier Autain est avocat et élu au Conseil national des barreaux.
C'est un crève-cœur parce que, vous voyez, au barreau de Paris, par exemple, je sais que les désignations d'assistance d'avocats en garde à vue ont cessé. Donc les gens vont se trouver sans avocat en garde à vue. Ce qui va sans doute faire le délice de service d'enquête. Parce que quand personne n'est assisté, forcément, c'est beaucoup plus simple de lui poser des questions. Je sais qu'il y a, sur l'aide juridictionnelle, sur les commissions d'office, aussi des mouvements de grève. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que c'est très compliqué pour nous. Ça signifie qu'on abandonne nos clients et les plus démunis d'entre eux.
La plupart des barreaux de France vont tenir une AG aujourd'hui pour décider de la reconduite de leur mouvement, mais certains ont déjà choisi de faire grève toute la semaine.
Avant les congés de fin d'année, ils étaient au centre de la contestation contre la réforme des retraites, dont ils pourraient être les grands perdants. Et deux semaines après, l'élan n'a pas faibli chez les enseignants. Sans compter qu'outre la reprise des négociations prévues le 13 janvier, ce mois de janvier s'annonce particulièrement tendu, avec également les premières épreuves du nouveau bac, dont les syndicats demandent toujours la suppression. L'homme armé d'un couteau arrêté hier à Metz après avoir été blessé par balle à la cuisse par la police a été placé en garde à vue en milieu hospitalier. Le suspect fiché S était connu pour sa radicalisation et ses troubles du comportement. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et puis, rappelons que cet incident survient deux jours seulement après la mort dans un parc de Villejuif d'une personne tuée à l'arme blanche par un homme présentant lui aussi des antécédents psychiatriques avant d'être abattu par la police. Enfin, hasard du calendrier, 5 ans après l'attentat ayant décimé la rédaction de Charlie Hebdo, mais aussi à quelques jours de l'anniversaire non moins sordide de l'attaque contre l'hypercachère, c'est aujourd'hui que doit s'ouvrir aux assises spéciales de Paris le procès de la filière des frères Belloucine, dont l'aîné est considéré justement comme le mentor du tueur de la supérette de l'Est parisien, Hamedi Coulibaly. Alors ce sera surtout en réalité le procès des absents, puisque 5 seulement des 24 accusés sont appelés à comparaître, tous les autres étant soit recherchés, soit considérés comme morts en zone de combat. Et puis, ce sera certainement aussi, Florence Turm, le procès d'une époque, en l'occurrence celle des départs massifs vers la Syrie.
Oui, 2 filières dans cette affaire, mais avec des liens étroits entre leurs différents membres, partis pour la Syrie, certains avec femmes et enfants, entre septembre 2014 et janvier 2015. Il y a d'abord un groupe de jeunes de Sevran, en Seine-Saint-Denis, tous adeptes de la mosquée clandestine de la ville, fermée depuis sur décision administrative. La mosquée des radars, dite aussi mosquée Daesh, où les prêches de Sofiane Nehri relaient l'idéologie du groupe État islamique. En Syrie, cet ancien professeur de mathématiques va ensuite assurer l'accueil des nouveaux arrivants, dont beaucoup mourront dans des opérations suicides après avoir encouragé leurs amis restés en France à y commettre des attentats. Leurs proches recevront des messages annonçant leur décès en martyr, mais faute de preuves absolues, la justice française va les juger par défaut. Parmi ces accusés fantômes, les frères Belloucine, apprenti ingénieur, l'aîné Mohamed Belloucine a fréquenté l'école des mines d'Albi où il a connu l'imam de Sevran. Il reste lui aussi une figure emblématique de la filière, un mentor pour de nombreux candidat au départ. Le sien a lieu de manière très troublante, le 2 janvier 2015, quelques jours avant les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, et c'est précisément le tueur de l'hypercachère, Hamedi Coulibaly, qui les conduit, son frère et lui, à l'aéroport de Madrid. Ils prennent un vol pour la Turquie, en compagnie de la compagne du tueur, Hayat Boumediene, elle aussi toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt. Tous les trois seront jugés, mais certainement encore par défaut, dans le procès à venir des attentats de janvier, qui s'ouvrira en mai prochain, Mohamed Belloucine étant considéré comme l'auteur du serment d'allégeance lu par Hamedi Coulibaly dans la revendication de son action terroriste.
Le centre de Téhéran était noir de monde ce matin en hommage au général iranien Qassem Soleimani, tué vendredi dernier par une frappe américaine en Irak. Portrait de leur héros souriante en main. La foule, sans jamais cesser d'agiter moult drapeaux rouges, couleur du sang des martyrs, s'est notamment amassée aux abords de l'université de Téhéran, où le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, est venu présider une prière en l'honneur du soldat le plus populaire d'Iran. Alors la veille déjà, une marée humaine d'hommes et de femmes en pleurs, criant « mort à l'Amérique » avait déferlé dans plusieurs villes du pays. Et c'est aussi pour le premier des 3 jours de deuil décrétés donc en Iran que la décision la plus attendue, bien que prévisible, est tombée comme un coup de massue hier soir. L'Iran se sent désormais libéré de toute obligation vis-à-vis de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015, ou dit autrement, Christian Cheneau, les centrifugeuses iraniennes pourront de nouveau proliférer.
En annonçant la 5e et dernière phase de son désengagement de l'accord de Vienne, Téhéran a quasiment vidé de toute sa substance ce compromis international arraché en 2015. Le retrait américain au printemps 2018 avait déjà considérablement affaibli cet arrangement. La République islamique vient sans doute de lui porter un coup fatal. Car l'Iran a décidé de faire sauter les derniers verrous fixés par l'accord et de ne plus brider son programme nucléaire, qu'il s'agisse du nombre de centrifugeuses, du degré d'enrichissement ou encore de ses activités de recherche et de développement, même si techniquement, Téhéran reste toujours partie prenante de l'accord. Les Iraniens ont bien pris soin de préciser que l'AIEA, le gendarme nucléaire de l'ONU, continuerait d'exercer un strict contrôle de leur programme atomique. L'Iran a également fait savoir que toutes ces nouvelles mesures étaient réversibles rapidement, à la condition que les sanctions américaines soient levées ou à défaut que les autres pays signataires de l'accord de Vienne, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Chine et la Russie, compensent les pertes économiques iraniennes dues à l'impossibilité de Téhéran d'exporter son pétrole. Ce nouveau contre-feu sur le dossier du nucléaire rend la crise avec les États-Unis encore plus complexe et dangereuse, car rien n'empêche désormais la République islamique de s'approcher du seuil des 20% de l'enrichissement d'uranium, considéré comme un niveau permettant d'aller rapidement vers la bombe atomique.
Alors on l'a compris, l'accord sur le nucléaire iranien est désormais presque vidé de sa substance, même si Téhéran a fait preuve d'une prudence stratégique en évitant de dénoncer frontalement ce texte qui lie la République islamique aux grandes puissances, laissant ainsi à tous les acteurs une ultime marge de manœuvre dans un contexte régional explosif. De son côté, le tempétueux président américain Donald Trump a lui menacé hier l'Iran de représailles majeures, mais aussi l'Irak de sanctions après un vote du Parlement réclamant l'expulsion des troupes américaines du pays. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient, chargée de cours à Sciences Po et vice-présidente de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient. Bonjour madame.
Bonjour.
Diriez-vous que la mort du général Soleimani est-il l'événement le plus significatif finalement au Moyen-Orient depuis aussi bien l'invasion en Irak par les États-Unis, c'était en 2003, que les révolutions arabes de 2011, ou dit autrement, y aura-t-il un avant et un après 3 janvier 2020 ?
Oui, c'est un événement majeur qui se déroule aujourd'hui au Moyen-Orient, dans un Moyen-Orient qui est déjà extrêmement instable. Un Moyen-Orient qui a connu ces derniers mois un certain nombre de tensions qui faisaient craindre d'ailleurs le fait que la situation puisse dégénérer en conflit. Jusque-là, tout le monde s'accordait à dire que personne ne voulait de guerre, ni les Américains, ni les Iraniens. Or, avec cette décision prise par Trump de supprimer le chef militaire de la force Al-Quds, qui est cette force importante d'une milice iranienne, qui est un interlocuteur d'un certain nombre aussi de militaires, puisque Qassem Soleimani était l'homme avec lequel les Américains eux-mêmes négociaient dans la lutte contre Daesh. Donc en s'attaquant à une personnalité de cette importance, de cette personnalité officielle du régime iranien, là Trump a franchi un pas extrêmement dangereux, me semble-t-il.
Je le disais hier, le Parlement irakien a donc adopté une résolution demandant au gouvernement de mettre fin à la présence des troupes étrangères dans le pays. Après ce vote, l'armée américaine risque-t-elle donc son deuxième retrait forcé d'Irak en une décennie?
Alors c'est vrai que c'est une résolution mais qui n'a pas force de loi prise par le Parlement irakien, mais en tous les cas c'est un signal qui est adressé très clairement aux Américains pour leur demander de partir, et on voit bien que là les Irakiens sont complètement pris en étau finalement entre les Américains et les Iraniens. On avait coutume de dire que l'Irak était une co-gestion américano-iranienne, et on voit aujourd'hui qu'effectivement cette expression a une réalité, puisque après la décision prise d'éliminer Qassem Soleimani, c'est en Irak que la situation se durcit de façon très grande pour les Irakiens et pour la présence américaine dans ce pays.
Et à ce titre d'ailleurs, les députés irakiens sunnites et kurdes n'ont pas participé au vote hier.
Alors ce qui est encore plus dramatique, me semble-t-il, dans cette affaire, c'est que le mouvement de contestation que connaît l'Irak depuis maintenant près de 3 mois était un mouvement qui justement allait au-delà de ses appartenances communautaires confessionnelles, qui avait une volonté de la part des jeunes Irakiens de sortir de ce système confessionnel. Et avec l'assassinat de Qassem Soleimani, on voit bien que ces clivages sont en train de réapparaître de façon très forte en Irak, avec ceux qui sont pour cette élimination, parce que Qassem Soleimani jouait un rôle très important en Irak aussi d'un point de vue politique, et ceux qui le soutiennent. Et donc ça fait ressurgir de façon très grave ces clivages contre lesquels ces jeunes Irakiens se battaient depuis quelques mois.
Effectivement, ce front anti-américain se soude donc derrière le martyr Soleimani, que ce soit en Iran mais aussi donc en Irak et au Liban. Or, on se souvient que récemment encore, dans ces trois pays, des mouvements de protestation avaient émergé. Sur la scène intérieure iranienne, notamment, l'interventionnisme de Téhéran était de plus en plus critiqué. Et puis en Irak et au Liban, donc ces mouvements rejetaient l'influence de l'Iran. Est-ce que cet assassinat est susceptible du coup de renverser la situation ?
Non, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, que ce soit au Liban et en Irak, il y a un certain nombre de groupes qui sont pour et d'autres qui sont contre. Donc le fait de la disparition de Qassem Soleimani, de toute façon, il y a déjà un successeur qui a été nommé, qui a pris les choses en main, qui est un homme aussi important dans le système iranien. Donc toute la stratégie d'influence régionale menée par l'Iran à travers la force Al-Quds, à mon avis, va se maintenir. Maintenant, toute la question, c'est quelle va être la réaction de l'Iran par rapport à cet événement, et à partir duquel, comment les uns et les autres vont-ils pouvoir se situer?
Alors justement, l'Iran a promis de se venger. Concrètement, et hormis donc sa décision hier soir de se libérer de toute obligation vis-à-vis de l'accord sur le nucléaire, quelle menace crédible la République islamique est-elle susceptible d'agiter?
Alors, ce dont dispose l'Iran, c'est surtout une capacité de nuisance avec l'utilisation de ses missiles. Ce que l'on sait, c'est que l'Iran dispose d'un arsenal de missiles important. On l'a vu ces derniers mois avec des attaques, certaines attaques, même si elles n'avaient pas été revendiquées par les Iraniens, mais je pense à l'attaque des installations pétrolières en Arabie Saoudite, grâce à l'utilisation de missiles de croisière ou de missiles balistiques. Donc, l'Iran a cette capacité d'utiliser ses moyens qu'elle estime, elle, des moyens défensifs et qui sont des moyens qui peuvent vraiment créer des attaques très importantes sur un certain nombre de cibles qui seraient choisies. Et donc cette capacité de nuisance de l'Iran, elle en dispose. Elle n'a évidemment pas les mêmes moyens que l'armée américaine et encore moins que les armées dans le Golfe, de l'autre côté du Golfe Persique, je pense à l'Arabie Saoudite ou aux Émirats. Mais par l'utilisation de ces missiles dont elle s'est dotée et dont elle a développé les capacités de façon très importante ces dernières années, l'Iran a des moyens de nuisance très importants sur des cibles, aussi bien de l'autre côté du Golfe, en Arabie Saoudite, dans les Émirats, ce qui inquiète beaucoup les pays arabes du Golfe, bien évidemment, ou à travers ses proxys, puisqu'on a vu régulièrement aussi l'Iran utiliser des forces dont elle disposait au Yémen, en Irak, ou au Liban et en Syrie, n'oublions pas, où les Iraniens sont aussi très présents, et donc ça peut être un moyen d'utiliser, de viser certaines cibles sans apparaître directement.
Merci Agnès Levallois, vice-présidente, je le rappelle, de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, à 10 mois de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump, grand pourfendeur des interventions militaires au Moyen-Orient, vient sans doute de prendre la décision la plus risquée de son mandat. Pour autant, il est évidemment encore trop tôt pour dire si cette question iranienne sera décisive ou non en vue de l'élection de novembre. Seule certitude et sans surprise, les réactions aux États-Unis restent très tranchées et épousent au fond le fossé entre républicains d'un côté et démocrates de l'autre. Quoi qu'il en soit, toujours aux États-Unis, démocrates et républicains justement restent dans la passe s'agissant cette fois-ci de la date fixée, non fixée justement pour l'ouverture du procès en destitution, très attendu du président Trump. Depuis le vote historique du mois dernier, les démocrates majoritaires à la Chambre basse refusent de porter l'acte d'accusation devant le Sénat contrôlé par les républicains tant que ce dernier n'aura pas énoncé un cadre juste pour la tenue des audiences. Autre procès prévu, lui, pour durer 6 semaines et qui s'annonce d'ores et déjà comme l'un des plus suivis de l'année. Harvey Weinstein, l'ex-magna hollywoodien, autrefois faiseur d'Oscars et empereur intouchable du cinéma indépendant, comparaîtra à partir d'aujourd'hui devant un tribunal de New York dans le rôle qui est désormais le sien, celui du prédateur sexuel libidineux. Bien qu'accusé publiquement par plus de 90 femmes de viol ou de harcèlement, le procès de l'ex-patron du studio Miramax ne portera en revanche que sur les accusations de 2 plaignantes et une condamnation du producteur est visiblement encore loin d'être assurée. Ce dernier a toujours assuré que ses relations sexuelles étaient consenties et c'est aussi ce que devrait plaider son avocate, une pénaliste de Chicago de 44 ans, connue pour avoir déjà défendu avec succès des dizaines d'hommes accusés de harcèlement ou d'agression sexuelle. Donna Rotunno, c'est son nom, ouvertement hostile au mouvement MeToo, fera tout pour convaincre les jurés que les faits rapportés jusqu'ici par les accusatrices ne sont qu'une partie de l'histoire. Et puis à l'inverse, les 2 accusatrices du célèbre producteur seront représentées par une avocate féministe, Gloria Allred, extrêmement médiatique, parfois critiquée, qui défend, elle, depuis plus de 40 ans maintenant, les femmes victimes de viol ou de harcèlement sexuel. Notre correspondant Grégory Phillips l'a rencontré hier à New York, à la veille donc de ce procès historique.
À 78 ans, Gloria Allred affiche la force tranquille de celle qui, depuis 4 décennies, défend devant les tribunaux américains des femmes victimes de viol, de harcèlement sexuel ou de discrimination. Mais cette fois, elle sait que le procès, qui s'ouvre ce lundi à Manhattan, aura un retentissement mondial.
Quand des célébrités très connues accusent un producteur, et dans ce cas précis, l'un des plus fameux producteurs hollywoodiens, ça fait les gros titres.
Dans ce procès, Gloria Allred représente 2 femmes. La première s'appelle Mimi Hallett, ex-assistante du producteur hollywoodien qu'elle accuse d'agression sexuelle à l'été 2006 dans son appartement new-yorkais. La seconde est l'actrice Annabella Sciorra, qui affirme avoir été elle aussi agressée, mais en 93, les faits sont prescrits. L'avocate a préparé ses 2 clients.
Je trouve que mes 2 clientes sont très courageuses. Quand elles viendront témoigner, je m'attends à ce qu'elles subissent un interrogatoire vigoureux. Weinstein risque la prison à vie. Il y a de gros enjeux.
Du côté de la défense, Harvey Weinstein a recruté une autre femme, plus jeune, Donna Rotunno, originaire de Chicago. Moins connue, mais tout aussi combative, elle a déjà prévenu qu'en tant que femme, elle n'hésiterait pas à interroger brutalement les accusatrices de l'ancien producteur et à mettre en cause leur témoignage.
De philanthrope à paria, décidément plus un mois ne se passe sans que les institutions culturelles internationales ne décident les unes après les autres de renoncer au mécénat de la famille Sackler, laquelle a bâti sa fortune sur le puissant analgésique à l'origine de la crise des opiacés aux États-Unis et responsable de la mort de près de 400 000 personnes en 20 ans. Après le musée Guggenheim ou le musée du Louvre, c'est donc autour du festival Menuhin de Stadt qui accueille 40 000 amateurs de musique classique chaque année en Suisse de dire non à l'aide financière défiscalisée de la famille Sackler. Cécile de Carvasdoué, bonjour.
Bonjour.
En précisant que le festival ne renonce pas à une grosse enveloppe, mais le nom de Sackler est devenu gênant, même en Suisse.
Oui, la Tate Gallery de Londres, le Guggenheim et le Metropolitan Museum de New York, le Louvre à Paris, le Tufts University à Boston et maintenant le festival Menuhin à Gstaad. Les Sackler, une famille plus riche que les Rockefeller, qui se faisait appeler jusqu'ici les Médicis du 21e siècle, sont devenus des mécènes bien encombrants pour bien des institutions culturelles, mais aussi pour leurs autres mécènes qui ne veulent plus être éclaboussé par cette famille. Une famille accusée d'avoir contribué à la crise des opioïdes et qui fait l'objet de 2600 poursuites judiciaires aux États-Unis. Leur antidouleur, l'ocytocine, leur entreprise, Purdue Pharma, qui leur a rapporté 35 milliards de dollars, leur fondation Sackler, qui a financé des musées et des universités du monde entier, ou tout simplement leur nom, Sackler, sont aujourd'hui boudés, même si l'enveloppe du mécène est très réduite. Et c'est ce qui s'est passé en Suisse, lors du conseil d'administration du Menuhin Festival de Gstaad, le 28 décembre dernier. Le festival a donc décidé de renoncer aux 23 000 euros versés jusqu'ici à titre personnel par Teresa Sackler, grande amatrice de musique classique et qui a un chalet dans le village. Argument invoqué, une clause morale, mais surtout la crainte d'une très mauvaise publicité. Deux documentaires diffusés sur la télévision alémanique ont fait beaucoup de bruit en Suisse et l'affaire est devenue d'intérêt public, explique le président du festival qui précise que cette enveloppe est marginale et le festival loin d'être en danger. C'est donc le nom Sackler qui est devenu trop pesant, particulièrement en Suisse, particulièrement au moment où la presse américaine révèle que la famille Sackler a mis à l'abri plus de 10 milliards de dollars dans des holdings, des paradis fiscaux, mais aussi sur des comptes personnels en Suisse.
Merci Cécile de Carvasdoué. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi, marqué par l'arrivée d'une dégradation pluvieuse par l'ouest. Partout ailleurs, le ciel hésitera entre grisaille et éclaircie. Quant aux températures, elles afficheront entre 3 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.